19h-20h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui, c'est vrai qu'elle est douce notre France. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est les informés, vous le savez. Comme chaque soir justement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 20h pour commenter, analyser, décrypter l'actualité ensemble. Eh bien, nous allons recevoir plusieurs invités aujourd'hui. D'à la fois le maire adjoint du Nord, du côté de l'île de Montbarol, justement un maire adjoint. Il est également membre du Parti Socialiste, c'est Monsieur Baptiste Ménard. Tout à l'heure à 19h20, le mythique chanteur du groupe Zebda sera avec nous. On en a parlé hier sur notre antenne avec vous, justement. Il s'appelle Majid Serfi. Il sera avec nous. Il a accepté, justement, d'être sur l'antenne à 19h20. 01 53 48 3000, c'est tout à l'heure, c'est vous. Vous, pour commenter l'actualité au 01 53 48 3000. Et puis, on clôt l'émission avec le face-à-face. Aujourd'hui, Gamal Abina est l'élu Europe Écologie Les Verts, Philippe Nadji Bourriaki. C'est parti, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu.
Les informés, l'interview.
Baptiste Ménard, bonjour.
Bonjour.
Merci, vous êtes adjoint au maire de Mons-Barœul. Vous êtes membre du Parti Socialiste dans le Nord. Merci d'être avec nous, Baptiste Ménard. Alors, vous êtes avec nous. On va tenter de comprendre d'abord. Je vais vous faire réagir à cette actualité concernant l'élection présidentielle 2022. François Hollande, il est du parti de votre bord. Hein. Il fustige les candidatures. Est-ce qu'il n'est pas en train de régler ses comptes en désinguant Zemmour et les autres, et il rend hommage aussi à Sarkozy. Qu'est-ce qui lui arrive, François Hollande?
Ben écoutez, François Hollande a été président de la République. Il demeure pour beaucoup d'entre nous une boussole, celle d'une gauche de gouvernement. Après, je pense qu'à travers son ouvrage « Affronter », il apporte un témoignage, un regard sur ce qu'il estime être le bon chemin à prendre pour la social-démocratie. Et en cela, moi, je trouve toujours intéressant qu'un ancien président apporte en quelque sorte son expérience, même si maintenant le Parti Socialiste...
Oui, mais son expérience, alors c'est vrai que vous l'avez dit, son ouvrage qui sort est paru donc aujourd'hui aux éditions Stock, Affronter, c'est le titre de son ouvrage. Mais pour quelle raison? Alors, il désigne quand même Mélenchon, Montebourg, Zemmour, Macron. Est-ce qu'il n'est pas en train de régler ses comptes?
Régler ses comptes, en tout cas, il s'en défend. Moi, je pense qu'il dit un certain nombre de choses qui visent juste. Notamment, par exemple, sur, j'allais dire, le fait que Jean-Luc Mélenchon a loupé une chance historique qu'il avait au sortir de l'élection présidentielle de 2017, que d'apparaître comme... l'homme qui pouvait rassembler toute la gauche. Au lieu de ça, il s'est cornérisé et parfois il a même abandonné la République. Voilà, moi, en tout cas, lorsque le président Hollande dit cela, je me retrouve totalement dans ses propos. Lorsqu'il dit aussi que Éric Zemmour, en quelque sorte, est un danger pour notre démocratie, je crois qu'il a raison de le dire. Voilà, il apporte un témoignage qui doit être entendu comme tel. Mais ensuite, charge à celles et ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle de porter un projet politique. Et pour ce qui nous concerne au Parti Socialiste, c'est à Anne Hidalgo de faire ce travail.
Alors, Anne Hidalgo, justement, qui perd hein, en sondage, qui est quasiment inexistante dans le paysage politique du moment, qui se fait évidemment à la fois broyer par Éric Zemmour et par tous les autres, la droite, l'extrême droite. Est-ce que le PS est en train, évidemment, de perdre du terrain, Baptiste Ménard? Est-ce que vous qui êtes membre du Parti National, est-ce qu'il est en train de disparaître du paysage politique, Baptiste Ménard?
Bah, écoutez, nous entrons dans la campagne, donc il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Et j'allais presque dire que ce n'est pas Anne Hidalgo qui est en difficulté, mais c'est bien toute la gauche. Car dans les sondages que vous évoquez, le total de la gauche est extrêmement faible. On l'estime entre 23 et 27% quand on sait que François Hollande, que vous évoquiez tout à l'heure, avait fait à lui seul 29% en 2012. Donc, ça veut dire qu'il y a un paradoxe. L'offre à gauche n'a jamais été aussi large, ou peut-être en 2002, et pour autant, le total gauche n'est jamais aussi faible. Donc, ça veut dire que À ce stade, il ne servirait à rien d'additionner des logos et de savoir qui doit se ranger derrière qui. Moi, j'appelle la gauche à sortir de la logique défaitiste qui consiste à considérer qu'en 2022, on doit enterrer la gauche et où chacun se bat pour obtenir la meilleure place dans le cimetière. Non, la gauche ne doit pas se résigner et au contraire, elle doit se mettre...
Oui, mais pardon de vous le poser la question aussi frontalement, aussi simplement, Baptiste Ménard. Mais la gauche, on ne l'entend pas. Aujourd'hui, avec cette omniprésence d'Éric Zemmour, par exemple, où est passée la gauche ?
Mais c'est vrai.
Où est passé le PS ?
C'est vrai que vous avez raison que depuis quelques semaines, on vit une frénésie médiatique autour d'un candidat qui ne l'est pas à ce stade, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de bilan à part celui de plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciste. Et dans ce paysage-là, celui d'Éric Zemmour, eh bien, on n'entend pas ou on peine à entendre les candidats de gauche. Et c'est le cas de tous les candidats de gauche, parce que Yannick Jadot, auréolé sorti de sa primaire, ne décolle pas davantage dans les sondages. Ça veut dire que la gauche a perdu la bataille culturelle, qu'il est plus que temps de s'y mettre, même si, encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, nous sommes encore loin de l'échéance présidentielle.
Absolument, je suis d'accord avec vous, mais enfin d'accord avec vous, je ne suis pas là pour être d'accord, mais j'entends ce que vous dites, pardonnez-moi, Baptiste Ménard, vous êtes adjoint au maire, donc sur une ville qui est tout proche de Lille. Hein.
Absolument, Mont-Saint-Barreul.
Absolument. Dites-moi, vous, membre du Parti National, est-ce que vous pensez, vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, le PS peut se redresser ?
J'en suis convaincu.
Et vous êtes jeune, c'est la jeune génération qui parle, vous avez 27 ans.
Oui, eh ben écoutez, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai poussé la porte du Parti Socialiste à l'âge de 15 ans en demandant à mes parents de bien vouloir me payer ma première carte dans un parti politique. Et je l'ai fait parce que il me paraissait insupportable que les inégalités ne cessent de s'agrandir. Et ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans que je suis au Parti Socialiste. Et les raisons qui ont conduit à mon engagement sont plus que jamais d'actualité parce que non seulement les inégalités continue de s'agrandir, mais il y en a même de nouvelles qui se créent. Donc je crois que l'histoire du Parti Socialiste n'est pas terminée. Et d'ailleurs, si, comme d'autres militants, je suis restée, c'est parce que je suis convaincue de nos valeurs. Je suis convaincue que les idées que l'on porte ont vocation à être mises en œuvre. Et je suis convaincue que nous allons trouver un chemin, même si je vous...
Mais comment je retrouver ce chemin ? Ça fait des années que vous avez du mal à trouver justement ce chemin. Pardon, hein, mais c'est
un... Non, mais ne vous excusez pas, vous avez raison. Nous avons beaucoup de mal à retrouver ce chemin. Moi, je considère que le Parti Socialiste, s'il veut retrouver ce chemin, il doit affirmer sa fierté d'être socialiste. Nous ne devons pas nous excuser d'être socialiste. Nous ne devons pas nous excuser de vouloir vivre dans une société plus égalitaire et plus fraternelle. Et nous devons nous battre sur le terrain, dans la proximité, dans nos municipalités, dans nos villes, pour convaincre qu'une alternative crédible est possible. Car c'est cela, au fond, l'enjeu. Nous devons susciter l'enthousiasme et susciter l'espoir autour d'un projet qui soit ambitieux, crédible et fédérateur.
Crédible, ambitieux, c'est laborieux, mais crédible et ambitieux. Comment s'adresser à cette nouvelle génération, justement ? Les élections approchent, c'est dans quelques mois. Le Parti Socialiste, comment va-t-il tenter de se redresser, justement ?
Eh bien, déjà samedi, nous avons la chance d'accueillir dans notre région, à Lille, Anne Hidalgo, qui viendra pour être confirmée, puisqu'il y a eu un vote militant des socialistes qui l'ont désignée comme étant la candidate. À travers ce vote, nous avons réaffirmé aussi notre volonté d'avoir un bulletin socialiste sur la table en avril 2022. Et cet événement, il doit démontrer, en quelque sorte, comment dirais-je, l'unité de la famille socialiste, mais aussi notre détermination à entrer en campagne, à montrer les insuffisances d'Emmanuel Macron, à montrer l'inconséquence de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et à montrer le chemin que nous voulons incarner, qui concilie les enjeux sociaux et démocratiques avec l'urgence climatique. Et nous sommes les seuls à gauche à incarner cette gauche républicaine.
Justement, vous êtes jeune maire adjoint, jeune membre du Parti Socialiste, 27 ans à peine, Baptiste Ménard. Alors, Éric Zemmour, cette omniprésence, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez, il a toute sa place aujourd'hui, hein, personne en face lui répond?
Ben, bien sûr, Éric Zemmour est l'une des manifestations de ce qu'a produit ce quinquennat de la désolation, où l'injustice a gouverné au choix politique et où la volonté de nier le clivage gauche-droite a fait perdre tous les repères aux Français. Il est aussi le symptôme d'une crise démocratique profonde. Et donc, vous avez raison de dire qu'il s'inscrit, on le voit bien, dans le paysage politique. Mais moi, j'appelle aussi la gauche dans son entièreté à se lever et à condamner les propos révisionnistes, misogynes, nauséabonds qui sont les siens, et à opposer face à lui une alternative. Parce que aujourd'hui, il prospère, parce que la droite se cherche encore son candidat, parce qu'on voit bien que Marine Le Pen ne se remet pas de l'électrochoc, on va dire, des élections régionales où elle pensait pouvoir remporter plusieurs régions et où, mal lui en a pris. Et donc, lui, il déroule un discours vraiment que je juge odieux, mais qui trouve un écho dans la population par rapport, aussi à des difficultés sociales qui s'exprime dans le pays. Et donc, quand il y a des difficultés sociales, ben, c'est toujours plus facile que de stigmatiser l'autre, stigmatiser celui qui ne nous ressemble pas, plutôt que de porter un message universaliste qui est celui de la gauche, bien sûr.
Vous pensez qu'Anne Hidalgo a des chances, justement, face à ces poids lourds ?
Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est l'enjeu de ces prochains mois, et c'est pourquoi tous les militants socialistes qui étaient jusqu'à présent l'arme au pied en attendant d'avoir une candidate, ils l'ont maintenant trouvée et nous devons maintenant aller sur le terrain comme nous l'avons fait ce week-end partout dans le département du Nord et partout dans le pays. Eh bien, en tout cas, moi, je prendrai toute ma part dans ce combat.
Comment comptez-vous justement prendre votre part et vous inscrire durant cette campagne ? Est-ce que vous allez avoir un rôle, vous, la jeune génération ?
Le rôle de la jeune génération, c'est de prendre la place qu'elle veut bien avoir. Et je considère que nous, qui sommes aux prises avec, dans nos amis, dans notre famille, avec un certain nombre de jeunes qui ont rencontré un certain nombre de difficultés, notamment du fait de la crise sanitaire que nous avons traversée, qui a montré que des jeunes ne pouvaient plus se nourrir, ne pouvaient plus se loger, eh bien, c'est à nous d'aller convaincre et de démontrer que ce sont nos propositions qui peuvent permettre de changer la vie.
Alors, est-ce que vous avez un mot justement à dire à cette jeunesse, cette jeune génération?
Eh bien, à cette jeune génération, j'ai envie de lui dire qu'elle continue à s'engager comme elle le fait sur des causes qui lui tiennent à cœur. On l'a vu, le climat, la cause animale, la lutte antiraciste. Il faut qu'elle continue de prendre toute sa place dans le débat politique. Il faut même qu'elle pousse les portes des partis politiques pour qu'elle vienne dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut pour son avenir. Et je l'appelle, bien sûr, à prendre part dans le débat de l'élection présidentielle. Il y a eu une étude récente qui a montré que 87% des jeunes envisageaient de prendre part au vote lors de l'élection présidentielle. Il faut qu'on s'approche le plus possible des 100%. Et il faut surtout que les socialistes convainquent que c'est nous le bon bulletin de vote à saisir.
Eh bien, merci, Baptiste Ménard. Vous reviendrez souvent à l'antenne, justement, pour commenter avec nous tout cela. Vous êtes l'adjoint maire sur la ville de Mons-en-Barœul, dans le Nord, membre du Parti Socialiste. Merci, Jean-Baptiste Ménard.
Merci beaucoup.
Merci Baptiste Ménard, c'est pas Jean-Baptiste. Merci Baptiste Ménard, pardon.
Merci beaucoup de votre invitation et à bientôt, j'espère.
À bientôt, avec plaisir, 19h14. 19h14, nous allons enchaîner, marquer la pause pub et se retrouver avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Quelqu'un qui a signé une tribune. Il est artiste, écrivain, aussi membre du groupe Zebda. Il vient de signer une tribune virulente contre le potentiel candidat à la présidentielle, Éric Zemmour. Alors, il s'adresse aux Français. Et on va s'adresser à lui en lui posant quelques questions pour tâcher de comprendre. Il est avec nous, il a accepté d'être avec nous à 19h20, juste après la pub. A tout de suite, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h20. Les informer avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous rejoindre, c'était Moussi Hakim avec Origine Contrôlée. Et là, exceptionnellement, nous allons recevoir celui qui a fait parler de lui avec sa tribune dans Libération. Majid Cherfi, Zemmour est l'immigré des revanchards, des peines à jouir, des trouillards et des hétéros étroits. L'invité actu.
Les informer L'interview.
Majid Cherfi, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous savez, c'est un véritable plaisir. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous êtes chanteur, ancien membre du groupe Zebda, avec votre nouveau livre, La part du Sarrasin, évidemment, dont on a parlé. Alors, merci d'être avec nous, Majid Cherfi. Je voudrais, évidemment, qu'on commente ensemble. Parce que, figurez-vous, hier, dans Les Informés, j'avais envie de parler de votre tribune. Et vous avez reçu énormément d'appels des auditeurs, partout en France, pour commenter cette tribune. Il y a eu même des coups de gueule concernant Zemmour, évidemment, parce qu'on a parlé de votre tribune. Et je tenais absolument à ce que vous soyez là, sur l'antenne, avec toute la direction, justement, pour parler de votre tribune. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid Cherfi, de s'attaquer à Éric Zemmour? Qu'est-ce qui vous a pris? Quelle mouche vous a piqué? Pardonnez-moi la trivialité.
Écoutez, je crois que c'est comme un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'en fait, nous, on est dans une espèce de terreur sourde. Je parle de l'ensemble des gens de l'immigration depuis 40 ans, avec un monstre qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et je me dis, tiens, 40 ans plus tard, c'est plus un monstre. Il a donné naissance à un hydre,
oui,
à plusieurs têtes, avec le maire de Béziers, Zemmour, Marine Le Pen, sa nièce. Et donc, il y a quelque chose, c'est un peu comme une espèce de nuage qui se répand, et il se répand vraiment, et là on étouffe, quoi.
On étouffe, justement, hier j'ai reçu énormément d'appels, parce que vous êtes de Toulouse justement. Alors,
ouais,
vous dites dans votre tribune, il y a plein de choses qui ont attiré mon attention. Vous avez écrit un formidable texte, justement, une belle tribune, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous le savez. Elle a fait le buzz.
Un petit peu, oui.
Et
oui.
Alors, vous vous adressez aux Français, vous vous adressez à qui au juste? À qui vous vouliez vous adresser? C'est ma question qui est très simple, parce que en filigrane, quand on lit votre tribune, on sait que vous vous adressez à tout le monde, et en même temps, à la fois aux Français et à d'autres. C'est qui les autres?
En fait, c'est vrai que c'est pas tant Zemmour qui m'a intéressé que les gens qui t'y séduisent. Et on a l'impression que un peu à gauche, un petit peu au centre, beaucoup à droite, énormément à l'extrême droite, tout le monde se dit, mais ouais, ce mec-là, il dit quand même des choses qu'on n'ose pas nous dire. Et alors, mieux que tout, en fait, il dit pas que des choses, il dit des horreurs qu'on aurait, que les gens auraient au fond d'eux. Ouais, les Arabes, finalement, est-ce que dans l'islam, il n'y a pas un peu de crime qui est sous-jacent dans cette religion? Est-ce que finalement, et chacun y va de sa petite question, mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une invasion? Est-ce que c'est... Et c'est quelque chose qui se répand, et finalement, ce mec-là, comment dirais-je, c'est un peu comme l'éboueur des aliénés pour moi. Il dit, écoutez, moi, je mets ma main dans le trou à chiottes et je vais extirper la saleté. Et quand personne veut y aller, il est seul.
Vous dites d'ailleurs, Majid Cherfi, vous dites dans vos tribunes, il y a un passage, moi, plusieurs passages que je voudrais commenter avec vous. Il est fort, Zemmour. Il sait ce qu'on n'ose pas penser. Il vend ce qu'on a honte d'avouer. Le ras-le-bol, ouais, le ras-le-bal,
oui,
râle la couette, oui, râle la frange, la désespérance, l'on peut plus, la boue, l'aigreur. Majid Cherfi.
Oui, je peux même vous dire qu'il y a même des gens d'origine maghrébine qui disent « Vive Zemmour !» parce que...
Bah moi, je l'ai eu sur mon antenne hier, je vous dis.
Oui.
Des gens qui étaient pro-Zemmour qui m'ont dit « Mais heureusement qu'il est là, Zemmour !» Vous leur dites quoi, Majid Cherfi?
Je crois que... Franchement, je vais vous dire, je crois qu'on n'a plus rien à leur dire. Je crois qu'on a perdu la bataille.
Ah.
Parce que ces gens sont désespérés. Ils sont éreintés par leur propre misère, leur propre peur. Et parmi eux, il y a des tas de maghrébins qui ont envie de flics, d'ordre, d'expulsion, de fermeture de frontières. Et c'est ce qu'il a compris, ces mots. C'est pour ça qu'il est fort.
Il y a un autre passage que je voudrais vous faire commenter. Il n'est pas là pour plaire, mais pour purger. C'est fort, ouais, vos termes. Hein. Le poids des mots est bien choisi, d'ailleurs. Et personne ne veut sa place fourrer sa main dans la basse fosse. J'aime assez bien le verbe, évidemment, des mots. Et vous dites ensuite, après, en vérité, Zemmour fait le sale boulot. C'est l'immigré, ouais, des revanchards, des peines à jouir, des trouillards et des hétéros étroits. C'est le bounouille des blancs asphyxiés de trop de complexité, des aristos délogés, des privilèges anciens. Alors, mon cher Majid Cherfi,
Oui, quand je me mets à penser à lui, je me dis qu'il ressemble au Bougnoul des années 70, nos parents qui faisaient le sale boulot, dont ne voulaient pas les Français. Et là, c'est plus les Français, c'est les aliénés. Mmh. Parce qu'il y a une population française qui grossit comme ça, une population apeurée. Oui. Il y a une vraie peur de ce qu'on a fait croire qu'il y a un grand remplacement. Et ces gens-là y croient.
Oui.
Parce que, voilà, par l'effet miroir, par l'effet loupe, l'effet média, ils oublient que l'immensité, oui, l'immensité des Maghrébins sont laïcs, sont républicains, aiment la France.
Oui.
Et voilà.
Dites-moi, Majid Cherfi, vous savez que tous les médias parlent de vous, de votre tribune désormais, y compris Causeur, qui se pose des questions. Alors, ils même disent, ils disent que une tribune très virulente, acerbe, mais bien écrite. Et ils reconnaissent qu'elle est très bien écrite, contre Éric Zemmour. Vous leur répondez quoi à Causeur ?
Ben, je leur réponds que oui, elle est virulente, parce que moi j'ai envie de répondre à la saleté par la saleté. Et même si, et donc, je me salis finalement. Si vous voulez, Zemmour, lui, il vient avec une hache et on nous demande de le combattre avec des locutions verbales. Donc il va gagner. Les Français veulent la hache. Enfin, les Français. Une majorité de Français en ont marre du verbe, en ont marre de la complexité. Ils veulent le coup de hache. Il faudrait que nous, on se batte avec notre intelligence. Ouais. On a perdu. Il faut aussi que de temps en temps, on aille dans les chiottes et lui péter la gueule, symboliquement.
Éric Zemmour, s'il est candidat, vous pensez que c'est possible qu'il se retrouve à endosser l'habit du président de la République ?
Oui, parce que, justement parce qu'il il s'est emparé d'une majorité de Français de tous bords et de toute classe sociale. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un passe à la droite de Marine Le Pen. Mmh. Et alors il y a ce miracle-là, et ce cas-là, l'air de rien, il fait l'unanimité des peureux. De ceux qui se disent et si on devenait un pays musulman. Et ça, ils n'en veulent pas. Et comme ils le croient, ils disent, bon, ça tombe bien, il y a une espèce de fou qui dit je veux bien aller à la bataille pour vous. Mais en contrepartie, vous m'élisez.
Majid, dites-moi, Majid Cherfi, Causeur, toujours, ils disent, finalement, pour un débat, Majid Cherfi versus Éric Zemmour. Ça vous tente ?
Non, je crois que... Non, parce qu'il ne faut pas débattre.
Vous répondez oui, vous, si demain, Éric Zemmour vous tend la main ?
Non, je réponds non, parce qu'il va me battre, comme il va battre tous les autres. Parce que moi, je suis une espèce d'intellectuel. Je vais venir avec mes locutions verbales, il va me démonter. Quand il va me dire « tu devrais t'appeler Guillaume », qu'est-ce que vous voulez que répondre à ça ?
Oui.
Il a gagné d'avance dans les débats. C'est pour ça qu'il ne faut pas débattre. Il faut éventuellement le laisser parler, l'inviter, mais débattre avec lui, c'est cautionner une crédibilité.
Qu'est-ce que, justement, pour celles et ceux, vous savez, aujourd'hui, qui sont indécis, qui ne croient plus du tout à la chose politique, qui ne croient plus du tout à la politique. Alors, ils sont nombreux dans les quartiers populaires. Je vous l'apprends pas, Majid Cherfi. Et ils écoutent ce soir. Ils sont nombreux aussi à vous écouter. Vous leur dites quoi ? Parce que, franchement, cette campagne présidentielle 2022 est un véritable enjeu.
Oui. Écoutez, je vais être franc avec vous. Je vais vous dire, on a perdu.
C'est dur à entendre ce que vous dites.
Oui, c'est dur à entendre, oui. Oui, mais on a perdu, parce que potentiellement, il est déjà vainqueur. Et si vous voulez...
Ça veut dire quoi, on a perdu ? Ça veut dire qu'on a baissé la garde ? Ça veut dire qu'on se bat pas ? Ça veut dire qu'il faut affronter quelque chose ? Dites-nous, j'aimerais comprendre votre pensée, Majid Cherfi.
Je dis qu'on a perdu parce que moi, il y a 40 ans, j'avais 20 ans, et je pensais que... On allait bâtir avec la gauche arrivée au pouvoir une France multiculturelle, une république cosmopolite. Et on en est 40 ans après à des gens qui veulent encore une république blanche, catholique, apostolique et romaine. Et le projet français, le grand projet universel, il est perdu.
Il est perdu. Que reste-t-il à faire, j'ai envie de vous dire ? Parce que j'aimerais quand même qu'on finisse sur une note, malgré tout, évidemment, d'optimisme. C'est dans 6 mois, oui, à peu près, les élections. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, en dehors de la tribune qui est très forte d'ailleurs et excellemment bien écrit, qui a été paru hier dans Libération?
Oui, écoutez, je vous dirais, pour réchauffer nos cœurs, il faut reconquérir les cœurs. Parce que c'est pas tant dans la tête que dans le cœur. Les gens ont peur, les uns des autres. Il y a deux camps, qui, entre autres, deux camps qui s'affrontent, l'un a peur de l'autre. Il faut convaincre les Français que nous sommes Français. Mmh. Et donc, voilà, la bataille... Quand je dis nous, je parle évidemment des gens issus de l'immigration.
Oui.
Même si nous le sommes, c'est ce que j'avais écrit en exergue dans mon livre, l'exception française,
oui,
c'est d'être français et de devoir le devenir.
Oui.
Bon, le problème est là.
Enfin, avec votre tribune, est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de communiquer avant de se quitter, Majid Cherfi? Et je vous remercie d'avance d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés sur Beurre FM. Concernant évidemment l'ambiance morose, concernant aussi également cette campagne qui démarre, concernant aussi l'inflation, enfin bref, tout simplement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent ce soir?
Je ne sais pas si ce que je vais dire va rassurer ou effrayer. Je dirais que prenons la France comme elle est. Il y a une part d'elle qui regarde l'avenir, qui accepte les mouvements du monde, les mixités en tout genre, et il y a celle qui veut revenir à des temps anciens, faire en sorte que l'autre moitié ait envie d'avenir.
Eh bien, merci Majid Cherfi. Majid Cherfi, je le rappelle. Merci infiniment. Chanteur, écrivain, acteur français, membre du groupe Zebda anciennement, bien sûr, sans oublier les ouvrages. Merci et au plaisir, Majid Cherfi. J'ai envie de vous féliciter. Bravo pour votre tribune dans Libération.
Merci, ça me touche, Adil.
À très bientôt, au plaisir, Majid Cherfi. 19h34 avec quelques minutes de retard. C'est un autre Majid, c'est le docteur Majid Séhoussine et sa tribune, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Mon cher docteur, j'enchaîne les Majid ce soir.
Ah oui, vous savez que Majid, c'est un prénom qui a été à la mode il y a quelques années. Mon grand-père avait coutume de dire que Majid était un prénom qui était aimé des Arabes et des Français.
J'adore. Pourquoi. C'est ça. Docteur Majid Séhoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôtel des Invalides les Militaires. Merci. Le billet d'humeur, je vous écoute. C'est parti avec quelques minutes de retard et j'en suis désolé.
Il n'y a pas de mal. Ben écoutez, mon cher Adil, nous mentons tous un peu, notamment vous, Adil, quand vous faites croire à votre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à votre épouse, que l'émission est en direct alors qu'il est 9h30, au moment où nous faisons cet enregistrement.
Il est fou, le docteur.
D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas participer à une émission aussi tardive, car pour ma part, à 19h30, je prépare le couscous après avoir fait le repassage.
Vous préparez le couscous, vous, ça m'étonnerait.
Eh bien, tout à fait, vous me connaissez mal.
Ah oui, je crois.
Donc nous mentons tous un peu, donc, mais il y en a qui mentent plus fort que nous. On pensait que seules les compagnies étrangères, BP, Shell, Mobil, avaient nié le changement climatique en finançant les climato-sceptiques ou en faisant circuler de fausses informations. Mais ne voilà-t-il pas que l'on découvre que notre géant français Total était au courant de l'impact potentiellement catastrophique, je cite, de ses produits depuis 1971 et que, dès lors, il a minutieusement freiné des quatre fers pendant presque 50 ans.
Exactement.
Petit coup de canif dans ce costume vertueux que nous, les Français, aimons revêtir, en général pour donner des leçons aux autres. Des chercheurs ont retrouvé dans la revue Total de 1971 un article d'un géographe disant que l'homme, depuis le 19e siècle, brûle des combustibles fossiles, ce qui libère des quantités énormes de gaz carbonique, dont la concentration augmente, et il prévient dans cette revue Total, une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère est à craindre, et une fonte au moins partielle de la calotte polaire, tout est dit en 1971. Et au fur et à mesure, depuis 1971, des études se sont accumulées. Et après les dénis, les compagnies pétrolières se sont lancées dans la contre-attaque. En 1986, le directeur environnement de Total, dans un rapport, écrit « Tous les modèles sont unanimes à prédire un réchauffement de la Terre. Il est donc évident que l'industrie pétrolière va devoir se défendre. Comme pour le tabac, comme pour les pesticides, comme pour les Facebook, on l'a vu la semaine dernière, même schéma de mensonge cynique pour des préoccupations financières. Il y a tant de victimes du mensonge, mais une m'attriste profondément.
Ouais, ouais.
Notre cher ex-président, cette victime injuste des mensonges sur le financement de sa campagne par le regretté Kadhafi, des mensonges sur ses dépenses de campagne et les sommes versées à la société Big Million, et j'en oublie encore. Ce petit Nicolas, la politique, qui nous avait voulu tant de bien en carchérisant l'identité nationale et les voyous, se retrouve devant les tribunaux pour une nouvelle fois, pour une vague affaire de sondage, alors que tout le monde sait qu'on lui mentait, comme on nous ment à tous et comme nous-mêmes nous mentons. Et pour finir, et pour donner une preuve de mon assimilation, contrairement à vous, Adil, n'est-ce pas, M. Zemmour, je vais citer la Bible. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies honteuses sera découvert.
Bravo, bravo mon cher docteur Majid Seoussine. Merci Majid Seoussine, merci mon cher docteur. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Et avec joie et enthousiasme.
Avec joie et enthousiasme, partagé 19h38. Merci mon cher docteur, 19h38, on marque tout de suite la pause pub, la dernière, et la dernière ligne droite qui nous attend. Bonjour Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe Najib Bouriaki.
Bonsoir.
Et bien le face-à-face, on se retrouve sur deux sujets d'actualité. Celui évidemment qui concerne l'élection présidentielle avec François Hollande, qu'est-ce qui lui arrive à régler ses comptes. Et puis on ira regarder la raison pour laquelle les enseignants qui soutiennent aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, qui soutiennent Éric Zemmour. Eh bien, je crois que je vais finir par donner d'accord à Majid Cherfi. Mais on est foutus. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h43, si vous venez de retrouver dernière ligne droite avec les informés, tout de suite le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Philippe Nadji Bouriaki, qui est le conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonjour, cher Philippe Nadji.
Bonjour.
L'homme engagé, réalisateur, Gamal Abina, qui ne lâche rien. Comment ça va, Gamal ?
Ça va très bien.
Premier sujet, Macron, Mélenchon, Montebourg et même Zemmour. Hollande, il est en train de régler ses comptes avec son ouvrage « Affronter », signé, paru aujourd'hui aux éditions Stock. Qu'est-ce qui lui arrive ? Notre cher ancien président de la République, dans son dernier livre, une étonnante, évidemment, des étonnantes déclarations. Il a envie de dézinguer, il veut exister, il veut revenir dans l'échiquier, Gamal Abina ?
Moi, je pense qu'il devrait faire du jospinisme. Il devrait dégager définitivement. Il sert à rien. Il a été nul. Il nous a fait un quinquennat catastrophique et en termes économiques catastrophique aussi. Il nous a placé vase. Bref, Hollande n'est absolument pas en mesure d'expliquer aux Français que, ou de critiquer même les candidats qui voudraient se présenter. Son parti est mort et lui est mort avec. C'est tout.
Philippe Nadji Bouriaki, j'ai jamais vu Nadji Gamal Abina aussi court.
Ah ouais, moi aussi, je suis surpris là.
Ah bah c'est la très surpris.
Le PS, ça m'intéresse pas.
Ouais. En même temps. Sur Hollande.
C'est pas l'histoire du PS qui nous intéresse là.
Ouais.
Non, c'est en gros, est-ce qu'il est en train de se repositionner ?
Oui, ça marchera pas. Il a un charisme de poulpe. Je suis désolé.
Bah, quand ouais,
on a charisme qu'on Hollande, bah, on vote pas.
Non, mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce
non, mais la réalité, c'est que c'est un vent, c'est du vent, c'est du baratin. C'est quelqu'un qui a la rage, qui s'est planté, qui a été mauvais dans sa première mandature, qui espérait repasser, il n'est pas passé. Il a réussi un coup de hold-up avec Sarkozy parce que Sarkozy était tellement détesté que par défaut, on a voté pour lui. À l'arrivée des courses, on a vu le résultat, bah, les gens ont voté pour un ticket à l'air plus sympa, qui a une bonne gueule. Ça a été Macron, c'est tout.
Alors, Philippe Nadji Bouriaki.
Oui. Hollande, qui c'est déjà c'est qui exactement.
Vous êtes dur.
Ah
quand même,
oui.
Non,
attends. Adil.
Vous êtes dur.
Adil.
C'est François.
Ah oui, François.
C'est le deuxième François.
C'est le mec.
Vous êtes dur, les amis.
C'est le mec qui a définitivement flingué la gauche. Moi, je me rappelle.
Le PS, pas la gauche. Le PS.
Bah,
le PS, c'est pas la gauche.
Oui, ouais, d'accord. C'est une partie de la gauche.
Il dit par exemple la croix. Par exemple, il désingue Emmanuel Macron. Il dit à quoi Emmanuel Macron.
C'est lui qui l'a fabriqué.
Oui, mais c'est son enfant. Mais en même temps, il règle ses comptes là. Dans le. Comment ne peut-il pouvoir les ambitions si maladroites feintes de Macron.
C'est autobiographique,
bref,
ça
bref, il y a plein de choses.
C'est autobiographique.
Il va loin.
Ah non, mais il sortait pas un bouquin. Il n'a pas sorti un bouquin, là. C'est ça, il est en promotion.
Oui, c'est ça.
Ouais, d'accord. Non, mais je voulais juste dire quand même que je crois que c'est la première fois dans la 5e République qu'un président, hormis Pompidou, parce qu'il était décédé.
Non, c'est la deuxième fois, il y a eu Sarkozy aussi.
Non, mais qui ne s'est pas présenté.
Ah, pas présenté.
Pas présenté. C'est la première fois.
Il aurait été ridicule. Hein,
non, mais peu importe, on n'en sait rien. Je sais pas.
Si,
moi.
Le sait, le
mais
sait.
Gamal, j'en sais rien. Je lis pas dans une boule de cristal. Mais lorsqu'on a été président de la République et qu'on s'est battu toute sa vie pour l'être et que on a un bilan satisfaisant d'après ce qu'il nous a raconté,
ah, oui.
Bah on retourne au combat. Moi, je l'ai vu, je me rappelle, tout penaud, il est arrivé, c'était un début décembre. Je vais pas y aller, mec, je prends la responsabilité. Bah, si tu prends la responsabilité, tais-toi. François, tais-toi, t'as assez fait de dégâts. Résolution numéro 27, donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Je les attends toujours. Tu nous as trahis. T'as trahi
la
ton
la déchéance
camp,
de solidarité.
Et va-t'en, dégage. La loi Alconnery, c'est toi. Comment il s'appelle, Macron, c'est toi.
Vous êtes dur quand même, hein, les amis. Hein,
mais c'est la réalité, c'est un fait historique.
Le problème, c'est que même si je ne veux pas être d'accord avec Philippe, il est impossible de ne pas être d'accord sur ce terrain-là.
Bah oui.
Monsieur Hollande a été, il a quand même nommé Valls, qui est quand même une lumière.
Ah oui,
on connaît.
J'ai oublié ça.
C'est quand même pas rien, Valls. On ne sait pas si la gauche, la droite, ça va des deux côtés. Ensuite, il a quand même fait des lois sur les déchéances de nationalité, c'est-à-dire qu'il était plus loin que Mitterrand. Mitterrand, il proposait de naturaliser l'autre, il veut retirer. Donc, on est vraiment sur quelqu'un. C'est pas le même François. J'avais pas de sympathie pour Mitterrand, mais Hollande a été plus loin quand même. Donc, non. On peut pas lui donner de laurier. Non, il a un bilan calamiteux.
Alors, j'ai envie de vous poser une question, justement. Est-ce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, compte, ou est-ce qu'il existe encore?
Il compte les gens qui lui restent.
Non, je crois qu'il faut pas. Effectivement, au niveau national, c'est un petit peu compliqué. Au niveau local, ils ont quand même conservé leur ville, etc. Ils ont conservé leur région.
Ils ont gagné, les dernières élections.
Leur région, on peut pas.
Mais ça, c'est du local. C'est qu'on vote, voilà. On vote pour un homme, on vote pas pour un parti.
Ouais, mais pour les régions, c'est un peu différent.
Ah, quoi que. Mais,
Non, mais c'est encore. Non, mais c'était Pécresse qui était en tête de.
Attends, mais c'est pour ça que j'ai dit non, la question des thunes. Non, le Parti Socialiste, clairement.
Il n'est pas mort.
Non, il est agonisant. On ne va pas dire mort parce qu'il est agonisant.
Disons qu'il n'est pas en super forme quand même.
En super forme. Autre sujet, puisqu'évidemment, il est 19h45 et il faut avancer notamment. Des enseignants, vous savez, qui soutiennent Éric Zemmour. Ça c'était il y a quelques jours. C'est intéressant, effectivement. Ils affirment avoir reçu des menaces et des demandes de démission de la part de certains parents. Comment vous réagissez? Et justement, est-ce que c'est le rôle aussi des enseignants de soutenir des candidats? Il ne l'est pas encore, mais bon.
Un corps de métier, non. En plus, j'ai eu la chance hier soir de discuter avec Guillaume Bessière, qui est un des enseignants signataires de la Tribune.
Alors, c'est intéressant.
Très intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est arrivé sur un plateau. C'est un type formidable, très gentil, pas de problème. Qui arrive sur un plateau parce qu'il dit Zemmour est une solution, parce qu'effectivement, il rêve d'une éducation de meilleure qualité. Après, j'ai lu leur Tribune, elle est quand même teintée de nationalisme un petit peu, beaucoup ils font référence à la grande armée de Napoléon, enfin, sans le nommer, ils font référence à beaucoup de choses, ils parlent beaucoup du mouvement woke américain, enfin, il y a un mélange un petit peu de tout.
Du mouvement woke?
Woke, réveillé. Pour dire que c'est une façon de dire, voilà, on est en train, ou de la cancel culture. Bref, ils sont dans une démarche où c'est vraiment, on sent une sorte de, c'est la réaction pure et dure, quand je dis réaction au sens réactionnaire du terme, évidemment. Et le problème de ces enseignants, c'est que d'abord, ils n'ont pas le droit de le faire encore constitué, c'est quand même pas la première fois qu'on nous fait le coup. Il y a eu d'abord les anciens de l'armée, après il y a eu ceux de l'active, maintenant les enseignants, on attend les infirmières, ça ne s'arrête plus. Donc non. Le phénomène Zemmour est un phénomène de réaction pure et dure, qui adhère à un personnage qui est parfaitement incapable de gérer un État, parce qu'il l'a prouvé dans des débats. Alors évidemment, en face de lui, il a plutôt des sparring partners plutôt que des gens qui lui posent de vraies questions. Hier, j'ai mis au défi, devant des millions de personnes quand même, de venir faire un débat avec les gens dont il parle tout le temps et avec lesquels il ne parle pas, donc en l'occurrence nous, je suis prêt à l'affronter, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure par notre ami Majid, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Zemmour est très facile à déstabiliser parce que Zemmour est très faible intellectuellement.
Ah, il n'a pas toutes les recettes, parce que sinon...
Très facile. Mais je ne lui expliquerai pas la méthode et l'approche. Oui. Mais ne pas parler à Zemmour, c'est jouer la politique de la chaise vide, et je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut lui parler et démontrer par A plus B que ce qu'il dit. Ce qu'il dit ne tient pas la route parce qu'il ne répond pas aux vraies questions.
Par contre, justement, parce que
Philippe Nadji Bouriaki.
Là, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux enseignants. Il faut juste savoir dans quel cadre ils l'ont fait. S'ils l'ont fait à titre personnel.
Non, à titre d'un groupe.
Alors, titre d'un groupe.
Groupe. Il a raison.
Oui,
groupe.
Non, mais d'accord. Mais bon. D'accord, c'est un groupe constitué, mais ils l'ont pas peut-être fait. Est-ce qu'ils l'ont fait pendant leur cadre de travail,
oui,
machin, absolument. Etc.
Oui, bien sûr.
Tu veux que je te donne comment s'appelle la Tribune?
Nous, enseignants, pensons qu'Éric Zemmour peut porter le projet d'une école d'excellence pour tous.
Et ça a été publié au Figaro.
Tribune collective.
À gauche, comme bien entendu.
Ah, exactement, au Figaro.
Donc, c'est dire que les choses sont claires. 50 enseignants.
D'accord, 50 enseignants sur combien total?
Non, c'est marginal.
Non, mais attends, je peux pas finir. Oui. La pub, là, je vais pas
pouvoir. Ils l'ont fait encore constituer.
Il reste 2 minutes, les amis.
Attends.
Allez-y.
Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un grand démocrate. Je crois que les gens ont le droit de s'exprimer. Ça nous pose aucun souci. Aussi, lorsque c'est des enseignants ou des acteurs qui s'expriment de manière humaniste pour soutenir, je me rappelle Johnny Hallyday quand il soutenait Sarkozy, quand c'était les autres qui soutenaient un candidat de gauche, etc. Moi, je crois que les gens doivent pouvoir s'exprimer, n'ont pas être menacés de quoi que ce soit lorsqu'ils s'expriment sur leurs opinions, parce que ça veut dire que en face on est encore beaucoup plus radicaux qu'eux et c'est à la limite d'un état fasciste de ne pas permettre à des gens intellectuels ou sportifs ou enseignants ou artistes de pouvoir s'exprimer, d'avoir un choix. Je vois il y a un des chevaliers Laspalès là, mais l'autre soutient Marine Le Pen. Écoutez.
L'école républicaine telle qu'on la concevait, la tradition française a cessé d'exister.
Mais sans dire
gros, c'est des phrases. C'est des phrases de la Tribune, les amis.
Non, mais ça, ces choses-là. Ah, Oui. Ces choses, quand c'est ils disent ça, ça ils sont bien. Dans le c'était mieux avant. Alors évidemment, ils n'ont pas tort sur tout. Hein, l'histoire de la méthode syllabitoire, on peut en discuter. Le problème, c'est qu'ils le font de la façon la pire. C'est-à-dire qu'ils font des références à des personnages comme le dictateur. Rappelons quand même que Zemmour aime un dictateur, Napoléon, qui a tué la République. Hein. On oublie que c'est un dictateur qui a fait la guerre à toute l'Europe. Parce que ça, il ne raconte pas.
C'était pour le sport.
Oui, c'était pour le fun. On tuait tout le monde. Toute l'Europe était contre lui. Parler de Napoléon dans n'importe quel pays européen, c'est la détestation absolue.
La relance économique.
Donc, non, quand on se réfère à un dictateur qui a été en plus le maître à penser de Hitler, rappelons-le aussi, quand on est révisionné sur les questions de la Seconde Guerre mondiale, comme le fait très bien Zemmour, moi j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à ce monsieur, et je suis prêt. C'est pour ça que s'il y en a qui veulent un affrontement, qu'ils commencent à en communiquer. Moi j'ai le contact d'un responsable de CNews, donc on verra, on espère que ça va aboutir. Mais il faut enfin qu'il arrête de parler de nous, mais qu'il parle avec nous.
Et ben on va continuer d'en parler. Merci à Gamal Abida, merci à Philippe Nadjibouriaki.
Merci
à la réalisation. C'était Yanis. Merci à tous d'ailleurs. Vous allez retrouver dans une poignée de minutes Bilal Nedman avec Time Sport 20h-21h. Et on finit cette émission avec. Est-ce que j'ai le temps d'annoncer le sommaire? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Avec 12 France, Rachida. Mon cher Bilal! J'ai pas le temps, vite, Bilalou, vite, il faut qu'on finisse.
On est là.
Alors, okay, rapidement, en 5 secondes.
Allez, Benzema, Paris Saint-Germain et sa victoire, et aussi on va parler de NBA, le retour.
C'est à 20h. Allez, à demain, avec autant de plaisir, on lâche rien. Ciao.